Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission Grand Angle. Avec l'hebdomadaire Pèlerin, nous analysons aujourd'hui les raisons du succès du film Des Hommes et des Dieux. Trois Césars, dont celui du meilleur film, récompense de la profession après le Grand Prix du Festival de Cannes et après ce grand succès populaire de plus de 3 millions d'entrées. Le travail de Xavier Beauvois et de toute son équipe vient bouleverser les spectateurs qui ne sont pas tous pourtant des habitués des monastères. Alors y a-t-il un phénomène autour du film Des Hommes et des Dieux ? Répond-il à une attente de la société contemporaine ? Et quel est vraiment le cœur de ce film ? Il doit bien y avoir des raisons à cet événement. Les qualités esthétiques, dramatiques, cinématographiques l'ont tout d'abord propulsé sur le devant de la scène, ovationné à Cannes avec un sujet qui n'est pas généralement en vogue sur la croisette. Et puis le rôle des journalistes et de la presse quasi unanime, un lancement à la rentrée de septembre et le bouche à oreille ont ensuite incité un public de plus en plus large à aller voir le film. Mais n'est-ce pas d'abord et avant tout l'histoire de Tibérine, la vie donnée de ces moines vivant dans l'Atlas qui a touché les cœurs et les spectateurs ? Le réalisateur, les comédiens eux-mêmes, ont dit combien ils avaient été traversés par le message de Tibérine et le tournage au Maroc fut un moment de grâce marqué par cette dimension exceptionnelle. Alors les raisons d'un succès, le message de Tibérine, pour en parler aujourd'hui, je reçois Philippe Royer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Pèlerin, spécialisé pour le cinéma, critique de cinéma depuis longtemps et vous avez suivi depuis le début cette épopée du film « Des hommes et des dieux ». Jean-François Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre, assomptionniste, philosophe, rédacteur en chef de la documentation catholique. Et vous vous êtes intéressé non seulement au film, mais aussi au phénomène médiatique et populaire qui s'est développé autour du film et par rapport à la réception du message des moines de Tibérine. Henri Quinson, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été moine 6 ans à Tamiers. Vous avez connu plusieurs frères de Tibérine. Et vous avez été conseiller monastique du film. Une première dans le monde du cinéma et aussi une fabuleuse expérience que vous racontez dans un livre qui paraît ces jours-ci aux éditions des Presses de la Renaissance, Secret des hommes, secret des dieux. La raison d'un succès, le message de Tibérine, c'est le thème du jour de Grand Angle. C'est tout de suite avec mes invités et c'est sur RCF.
Grand Angle, RCF, en partenariat avec Bayer Presse.
Alors Philippe Royer, l'hebdomadaire Pèlerin dans lequel vous travaillez a repéré très vite qu'il se passerait quelque chose autour du film Des Hommes et des Dieux. Vous avez suivi cette aventure depuis pratiquement une année. Quelles sont les grandes étapes de cette épopée ?
Les grandes étapes, c'est le tournage du film qui a eu lieu l'hiver dernier. Donc, nous, on a été alertés de ce tournage dans le courant de l'hiver et on a commencé à se mobiliser, à se demander ce que pouvait être ce film en préparation autour des moines de Tibérine, puisque on était très attentifs évidemment et on a beaucoup parlé à l'époque et même après de ce drame. Et on s'est mis en alerte, si on peut dire, et dès le mois de mai, on a publié à Pèlerin un premier récit du tournage à travers l'expérience de d'Olivier Rabourdin qui joue frère Christophe, un des moines. Et on a pu parler, c'est France Le Breton, ma consoeur, qui s'en est occupé à l'époque. On a pu effectivement avoir au bout du fil Lambert Wilson, Xavier Beauvois et apprendre qu'elles avaient été l'étape les étapes de préparation, de tournage, quel avait été l'investissement exceptionnel à la fois des acteurs, des techniciens, chose qui arrive assez rarement dans le monde du cinéma. Et effectivement, à Cannes, ça a été la première apothéose, si on peut dire, puisque le film a été applaudi, salué, plébiscité, autant par la presse française que par la presse étrangère et par l'ensemble des critiques, quelle que soit leur conviction religieuse, quelle que soit leur conviction profonde.
Quand vous avez les premiers contacts avec les acteurs, Olivier Rabourdin, Lambert Wilson, pour eux, vous sentez qu'il s'est passé quelque chose aussi ou c'est simplement, voilà, ils font la promo, l'avant-promo d'un film ?
Non, pas du tout. On l'a senti dès les premiers entretiens par téléphone et à Cannes également. Non, il n'y a pas eu ce phénomène qui est parfois très agaçant, effectivement, de promotion, de discours très laudatifs où on remercie, forcément on dit que le réalisateur était exceptionnel et que l'équipe était formidable. Non, on n'a pas eu droit à tout ça du tout. On a eu vraiment des individus d'une totale sincérité qui se sont investis et qui ont été bouleversés par le travail qu'ils étaient en train de faire, qui n'était jamais arrivé dans leur vie, autant Xavier Beauvois que les acteurs et les techniciens aussi. On a senti qu'il y avait quelque chose de particulier qui s'était passé pendant ce tournage et qu'on n'avait pas affaire à un film classique traditionnel.
Alors on va remonter encore un petit peu aux origines du film. Henri Quinson, comment vous êtes arrivé dans cette aventure puisque vous n'êtes pas tout à fait issu du monde cinématographique.
Alors, ce qui est un peu étrange et que je raconte dans mon livre, c'est que, en fait, après avoir traduit un livre écrit par un Américain, John Kaiser, sur les moines de Tibirine pour le 10e anniversaire de leur mort, sachant que j'ai connu 4 d'entre eux, donc c'est une histoire aussi très personnelle.
C'était passion pour l'Algérie.
Passion pour l'Algérie, voilà. J'étais demandé pour des conférences, etc. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit... cette histoire, visiblement, continue de toucher les gens, même 10 ans après. Ce qui serait formidable, c'est de faire un film de fiction sur les moines. Et j'avais même commencé à l'été 2007 à écrire un scénario. Et je suis allé voir après un ami que je connais depuis très très longtemps et qui se trouve être le numéro 2 du plus grand groupe de production ici en Europe, dont je tairai le nom vu la décision qu'ils ont pris finalement pour là-dessus. Et il m'a expliqué que un film avec sept moines qui se font tuer à la fin, ça va jamais marcher. Et 10 jours après, je reçois un mail d'un inconnu, Étienne Comard, qui me demande si c'est une bonne idée, selon moi, de faire un film sur Tibirine. J'ai cru au début que c'était une blague, parce que ce mail, je ne l'ai reçu qu'une seule fois dans ma vie, et je l'ai reçu juste après cette entrevue ratée. Et il ne faut pas faire du providentialisme idiot, donc j'ai quand même vérifié qui était Étienne Comard, si ce n'était pas une blague. Et comme il me parlait déjà du réalisateur Xavier Beauvois, je lui ai dit oui, c'est une bonne idée.
En fait, ça devenait crédible.
J'ai eu la même. Et en fait, le rapport s'est fait entre nous parce que, à cause de cette traduction précisément de John Kaiser, et en fait, ma photo figurant au dos de l'ouvrage en 4e de couverture, comme l'explique Xavier Beauvois dans la préface à mon livre, à force de me regarder sur cette 4e de couve, il s'est dit, je vais appeler ce gars-là qui connaît cette histoire de l'intérieur, qui a été lui-même dans un monastère cistercien pendant 5 ans. J'ai absolument besoin de quelqu'un pour me dire ce qu'il faut faire quand, dans le scénario, il y a marqué les moines pris. Parce que comment ils étaient habillés, qu'est-ce qu'ils chantent, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a fait appel à moi.
Xavier Beauvois qui n'hésite pas à dire, on l'a entendu dire qu'il voulait un moine pour qu'il n'y ait pas d'erreur, mais pas trop catho, pour que ça soit pas trop coincé et que vous puissiez discuter et qu'il puisse poser toutes les questions qu'il souhaitait.
Sa femme lui a dit, il ne faut pas que dans la préface tu dis qu'il n'est pas trop catho, parce que, à vrai dire, moi je
il le dit sur d'autres radios.
Voilà, je crois qu'il voulait trouver quelqu'un avec qui il avait aussi des atomes crochus. Ayant moi-même le désir de me lancer dans une aventure cinématographique, c'est vrai que j'étais prêt aussi à prendre une année de disponibilité pour vraiment être à son service pendant un an. Pour lui, c'était. Il a une approche cinématographique qui est vraiment fondée sur l'exactitude documentaire. C'est quelqu'un qui regarde plusieurs documentaires par jour. Et pour lui, c'est vraiment le socle de son travail artistique. C'est déjà de ne pas faire d'erreur sur le sujet qu'il veut explorer. J'avais un contrat à la fois sur le scénario, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur historique, monastique, aussi pour remplir les vides. Bon, par exemple, un sixième du texte qu'on voit à l'écran, c'est les chants que j'ai proposés comme répertoire liturgique. Et moi, j'ai beaucoup milité pour que ça fasse partie intégrante du film. Puisqu'au départ, en fait, quand on dit les moines pris, ça peut être simplement 30 secondes où on voit des moines à la chapelle. J'ai expliqué à Xavier que les moines sont silencieux et qu'une manière de les faire parler, c'est d'écouter leurs chants. 4 heures de chant par jour, voilà, ça c'est la réalité monastique, documentaire, mais c'est aussi une manière de faire entrer le spectateur dans le cœur des moines. Le cœur des moines, enfin sans jeu de mots, à la fois dans leur cœur en prière et puis ce cœur chantant. Voilà. Donc ça c'était un apport extrêmement important pour l'ensemble du film.
Et alors comment un conseiller monastique est accueilli par ce monde quand même très clos du cinéma ?
Bon, moi, ça me passionne d'être aux frontières. Pour moi, le travail missionnaire chrétien, c'est d'abord d'essayer soi-même d'être converti à l'évangile. et d'accepter d'aller dans des milieux, alors que ça soit les 14 années que j'ai passées dans une cité HLM à Marseille, au contact justement de principalement de familles musulmanes, et aussi de me trouver plongé pendant un an dans un milieu artistique, pour la moitié d'ailleurs de tradition musulmane aussi, puisque pendant qu'on s'escrimait ici en Suisse à interdire les minarets et en France la burqa, nous construisions avec des ouvriers marocains, donc pour la plupart musulmans, une chapelle, puisqu'il a fallu reconstituer en fait un monastère à Tumlilin dans le Moyen Atlas, voilà, qui était totalement en ruine, donc il y avait un énorme travail, reconstitution précise aussi d'objets grâce à Michel Barthélémy. Et à partir de photos que j'ai prises à Tibirine en 2006. Et donc tout ce travail, voilà, comment il était reçu? Ce qui nous a frappé, c'est qu'on a vraiment vécu, ça a été un peu dit justement précédemment, c'est dans un esprit très particulier qui pour moi est l'esprit de Tibirine, c'est-à-dire un esprit de fraternité sans frontières. Alors l'évangile a peut-être un cœur, le cœur de Dieu qu'on peut découvrir, mais voilà, l'amour de Dieu se vit sans frontières. Et dans cette équipe, il y avait à la fois des gens tel acteur c'est pas qu'il avait de l'hostilité contre la tradition chrétienne, il est tout simplement pas baptisé, pas au courant de, et donc il fallait que je lui explique même les gestes pour communier. Et bien sûr, au-delà des gestes, les acteurs ont fait effort, non pas d'essayer de simuler, d'interpréter un personnage, mais vraiment de devenir, d'être ses frères. Et je crois que dans le processus, ils ont découvert non seulement la vie monastique, mais le cœur de la vie de ses frères. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même dans une expérience spirituelle. Et cette expérience spirituelle nous a conduits très loin, à la fois dans la fraternité tous ensemble. Il y avait, moi, je ne pouvais pas en juger puisque je ne suis pas du métier, mais il y avait, me disaient tous les acteurs, effectivement, une ambiance très particulière dans ce travail qui a largement dépassé un engagement professionnel. Et puis aussi, donc, toute la question de la spiritualité, de celui qu'on appelle, faute d'un autre mot, Dieu. Voilà, mais quelle est cette réalité spirituelle pour nous, puisqu'il s'agissait de montrer des moines chrétiens quand même, donc en contact avec une population musulmane aussi très religieuse. Donc voilà, ce qui était intéressant, c'était de vivre cette rencontre entre des univers, oui, a priori, qui ne sont pas interconnectés, même si aussi dans l'équipe, il y avait des gens comme Michael Lansdale, qui sont chrétiens, qui revendiquent tout à fait leur foi, avec qui nous avons prié, nous avons été... on a dû être très discrets par rapport à l'Église au Maroc, qui était...
un peu réticente.
Plus que réticente, non pas au projet lui-même de faire un film, mais sur les retombées éventuellement négatives dans une situation politico-religieuse complexe là-bas. Et bon, Xavier Beauvois, au début, a un petit peu de mal à prendre la mesure des difficultés et trouver qu'il y avait de la paranoïa. Et puis, il s'est rendu compte au mois de mars, ça n'avait rien à voir avec le film, mais quand il y a une trentaine d'évangéliques qui ont été expulsés du Maroc, que ça rigole pas. Bon, moi, il se trouve que j'ai aussi de la famille marocaine devenue chrétienne et qui a dû quitter le Maroc, donc tout ça, je connais par cœur.
Cette sincérité, Philippe Royer, c'est une part du succès du film ?
Oh, sans doute, bien évidemment. Je pense que les spectateurs ne s'y sont pas trompés. Ils ont tout de suite senti qu'il y avait de la densité, que ça allait au-delà d'un simple film de fiction basé sur une histoire dramatique, donc qu'ils ont ou qu'ils connaissaient déjà ou qu'ils ont appris à l'occasion de ce film. Hein. Mais ça transparaît sur l'écran. Hein. On peut pas ne pas sentir que chacun s'est investi, qu'il y a quelque chose qui a fonctionné. C'est une petite communauté, un tournage. Hein. C'est une communauté temporaire. Hein.
Ça se passe sur tous les tournages, mais voilà, après, ça se passe plus ou moins bien.
Voilà, plus ou moins bien. Ce sont des gens maintenant qui viennent d'horizons différents. Il n'y a pas une homogénéité du monde du cinéma hein, aujourd'hui. C'est des gens qui viennent d'horizons très divers. Hein. Il n'y a plus une seule école de cinéma. Il n'y a plus un modèle. Donc, c'est une nébuleuse, c'est une galaxie. Les gens se regroupent le temps d'un film et les communautés fonctionnent bien, dépassent ce qu'on leur demande, le simple apport technique ou le travail d'acteur, et soudainement se mettent à faire jaillir une perle, quelque chose de dense, d'exceptionnel comme ce film-là.
Jean-François Petit, vous avez, vous, suivi un petit peu la montée en puissance de ce film, et notamment à travers les médias, ça a évolué petit à petit. Comment vous voyez un peu cette évolution ?
Je pense qu'effectivement, il y a eu une émotion à Cannes, et un beau film qui répond à un certain nombre de critères d'excellence, un film voilà, qui est enthousiasmant pour tout le monde, c'est déjà une amorce très conséquente. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une émotion à Cannes, me semble-t-il, que ça fait un succès de cinéma. Donc je pense aussi que tout le travail qui a été mis aussi en œuvre, notamment par les médias catholiques autour de la sortie du film, a contribué largement à un phénomène de bouche à oreille progressif, de pénétration dans différentes sphères. Et puis, ce bouche à oreille a produit des très, très bons effets. Donc, je pense que le succès du film, c'est d'abord un phénomène de communication sur des questions profondes, des questions existentielles, des questions de sens. Évidemment, il y avait aussi tout le passif de cette affaire dramatique des moines de Tibrine. Donc, il y avait aussi un terreau qui était préparé. Et en fait, s'il y a une montée en puissance, effectivement, de l'intérêt pour ce film, c'est aussi à cause d'un travail, à mon avis, bien fait. Au niveau local, au niveau des bulletins diocésains, au niveau de rencontres, les acteurs, les réalisateurs ont aussi beaucoup joué le jeu de la rencontre avec les populations sur place intéressées par ce genre de problématiques. Il y avait aussi tous ceux qui aujourd'hui soutiennent le dialogue islamo-chrétien, enfin tous ceux qui sont acteurs aussi d'un rapprochement possible entre le nord et le sud de la Méditerranée. Et tout ça a contribué finalement à un très beau succès et j'en suis très heureux.
Vous avez le sentiment que le film en soi pose déjà des questions, mais a ouvert aussi des débats qui ont prolongé un peu le film.
Je pense que ce film a un pouvoir pour que les gens parlent qui est assez extraordinaire. Je l'ai même expérimenté là ce dimanche. J'étais avec un groupe d'une soixantaine de religieuses. Même celles qui n'avaient pas vu le film avaient des choses à dire sur ce film. Voilà. Donc je trouve que c'est très très heureux parce que c'est un film finalement qui est basé sur des valeurs fondamentales, la fraternité. Qu'est-ce que c'est que le sens de la vie, comment est-ce qu'on peut partager, prendre des décisions ensemble. Donc il y a toute une série d'interprétations possibles, d'angles d'attaque, de discussions à partir du film, et c'est de ce point de vue-là très réussi.
RCF, en partenariat avec Bayer Press.
Puisqu'il est avec nous, le chant monastique qui est interprété par les moines de Tamier, là où justement les comédiens du film Des Hommes et des Dieux ont appris à chanter ces psaumes, ces hymnes, accompagnés par Henri Quinson. Les raisons du succès, le message de Tibérine, c'est le thème du jour de Grand Angle sur RCF. Henri Quinson, on entend les chants monastiques, on a tous été frappés par ces comédiens qui ont joué le jeu à fond. Enfin, c'est même plus un jeu à ce niveau-là, puisqu'ils ont pris des cours de chant, ils ont chanté les chants monastiques que vous avez vous-même choisis. Comment se fait-il qu'on est sensible à la fois à ce monde monastique et en même temps que le grand public connaît finalement très peu ?
Ben justement, c'était un des paris du film, c'est de dire, écoutez, pourquoi sur un sujet monastique, par excellence, puisqu'il s'agit quand même de moines chrétiens, pourquoi se priver ? Moi, c'est une conviction profonde, hein, je crois que la liturgie a quelque chose à dire aujourd'hui, et la beauté, et donc je crois que c'est un des points forts justement de la tradition monastique, et pas simplement d'ailleurs monastique, mais dans la tradition chrétienne, il y a quand même cette communion à Dieu par le chant, par la beauté. Or, souvent, on peut avoir peut-être des œuvres, que ce soit sur le plan littéraire ou cinématographique, où on va insister plutôt sur la spéculation intellectuelle sur la question de Dieu, ou simplement l'engagement social. Il est présent là aussi, hein, bien sûr, notamment à travers la figure de Frère Luc. Mais je trouvais qu'il était important, et c'est probablement à ma connaissance, mais là, il faudrait que je parle sous le contrôle de spécialistes du cinéma, je pense que c'est assez rare qu'un film prenne ce temps pour la liturgie. Voilà. Et je crois que ce qui s'est produit, c'est les acteurs eux-mêmes, j'allais dire les frères, les acteurs eux-mêmes ont été saisis par cette liturgie. Je me rappelle avoir proposé un hymne très difficile à chanter à quatre voix qui s'appelle « Au Père des Lumières » et qui est repris à la fin du film sur le générique. Et je l'ai envoyé à Xavier Beauvois simplement parce que c'est mon hymne préféré et je voulais le partager avec lui, mais je trouvais que c'était inchantable par des acteurs. Et lui a trouvé ça tellement fantastique, a passé son temps à l'écouter, et les acteurs ont tellement aimé cet hymne qu'ils ont pris le risque de l'apprendre. Alors, sur le film, discrètement, François Polgar, qui est le chef de chœur que j'ai pu faire embaucher, qui est l'ancien chef de chœur de l'Opéra de Paris, donc quelqu'un avec évidemment un grand talent musical et qui connaît très bien le chant grégorien, sa voix et la mienne sont discrètement ajoutées pour qu'il y ait un peu plus de volume. Mais je crois que l'ensemble de l'équipe a été saisie par la liturgie et qu'à l'arrivée, de fait, ça fait tache d'huile parce que le public, peut-être pas du tout averti et qui, comme vous le dites, ne va pas faire des retraites dans un monastère, se trouve pendant 2 heures. Alors évidemment avec la violence qui montre, mais voilà, cette ambiance si particulière des monastères, et ceux qui fréquentent les monastères étaient absolument bluffés par la capacité de l'ensemble de l'équipe à rendre compte et à rendre sensible cette atmosphère si particulière. Et j'insistais, oui, toujours sur l'importance du chant. Et je crois que, finalement, cette profondeur du film se trouve aussi à ce niveau-là. Et les milieux monastiques eux-mêmes, à commencer par frère Jean-Pierre, qui est donc le survivant qui vit aujourd'hui à Midelt au Maroc, a trouvé que c'était absolument incroyable la manière dont on avait réussi à rendre cette dimension-là du film. Lui a trouvé que c'était une icône et un chef-d'œuvre, ce qui pour nous vaut tous les prix de Cannes ou les Césars, quoi. Que ce soit Xavier Beauvois, évidemment moi-même, compte tenu de ma responsabilité pour le film, on peut pas rêver mieux, quoi. Quand le rescapé lui-même dit voilà, c'était vraiment ça.
Mais en même temps, le costume ne fait pas le moine. Alors comment les moines, les vrais, comment le monde monastique, notamment les cisterciens, ont-ils reçu cette idée, ce projet, et puis vous ont accueilli finalement à Tamier ?
Alors, je dirais que pour l'Église au Maroc, c'était compliqué ce film parce qu'il
y avait des questions politiques.
Voilà, il y a des risques, voilà, qu'on prenne ça pour une démarche prosélyte et ils ne voulaient pas s'y associer. C'est compréhensible. Pour les familles des moines, c'est compliqué. Il faut que les auditeurs se mettent à la place de gens qui ont perdu un frère, un oncle, il y a 14 ans, assassiné dans des conditions un peu obscures, avec beaucoup de médias autour. Tout à coup, on leur dit, voilà, on a fait un scénario, on va tourner un film, et ce film, bah, à l'époque, on pensait pas que, sans doute, la plupart des gens ne pensaient pas qu'il y aurait autant de spectateurs et qu'il serait aussi distribué dans plus de 50 pays, mais ils se disaient quand même, c'est un film, c'est difficile. Mais alors, pour les moines eux-mêmes...
Nous, on avait tous l'impression qu'entre les moines et les acteurs, il y avait des ressemblances parfois très frappantes, et que dans les familles, au contraire, enfin moi j'ai eu le témoignage d'un membre d'une famille qui disait alors là, ils se ressemblent pas du tout, quoi. Donc c'est effectivement très, très... On comprend, pour les familles, c'est quelque chose de très proche.
C'est très difficile, on se reconstruit mentalement à certains moments. Moi-même, avant de tourner la scène du dernier repas, j'avoue que j'en ai été surpris moi-même, j'ai été pris d'une émotion terrible, je suis allé pleurer dans mon coin. Je ne comprenais pas d'où ça venait et je me suis demandé si c'était pas moi qui mentalement avais reconstruit le dernier repas des frères. J'ai connu 4 des 7 frères et que tout à coup, confronté à ce dernier repas qu'on avait tourné, ça m'a ému contre toute attente.
Ils étaient là.
Ils étaient là et j'ai vraiment l'impression que je revivais ce moment avec eux. Et je crois que les acteurs aussi, à travers justement ce lien qui était fait entre le monde réel, justement, aussi à travers moi, mais pas seulement à travers moi, puisque les acteurs ont été en contact à la fois avec le milieu monastique quand on est allé à Tamier, et puis aussi avec certaines familles, celles qui le désiraient, ont eu le sens de la responsabilité qu'ils avaient vis-à-vis de ces hommes. Et au monastère de Tamier plus précisément, moi, on m'avait dit qu'il y avait deux frères de Tamier qui étaient totalement hostiles au film. L'un d'entre eux, quand je lui ai donné le scénario, m'a dit « c'est tout à fait Tibirine ». Et l'autre était très hostile au film.
C'est ce que vous racontez dans votre livre.
Et je raconte dans mon livre. Et en fait, à l'arrivée, et les moines, et les familles, et l'ensemble des monastères ont été très très heureux de ce film, à la fois de son caractère respectueux des détails de la vie monastique, mais plus profondément, et pour moi c'est plus important, de l'esprit même, pour moi c'est l'évangile, voilà, cet évangile de l'amour de Dieu et de l'amour du frère qui sont inséparables, qui sont transconfessionnels, sans frontières, et que cherchaient à exprimer les frères, que voilà, ça ils avaient quelque chose comme ça à l'écran. Alors le séjour à Tamier a été très important, puisqu'il ne s'agissait pas simplement de voler des images, hein, les acteurs sont un peu des voleurs d'images, ils regardent et ils vont faire les mêmes gestes, mais je voulais aussi qu'ils puissent rencontrer des frères de Tamier pour qu'ils prennent conscience que ces hommes, justement, c'est pas l'habit qui fait le moine, c'est pas que ça. Et donc ils ont rencontré plusieurs frères, en particulier le frère hôtelier, qui a vécu en Afrique, qui a vécu ce conflit entre Tutsi et Hutu, donc dans la corne de l'Afrique, au Zaïre, et ils se sont rendus compte que ce frère-là aussi avait risqué sa vie là-bas, et ils ont pu prendre la mesure de l'humanité des moines. Et je crois que ça a été très bien rendu, je pense, dans le film. Et cette expérience à Tamier, pour eux, a été décisive. C'était la première fois qu'ils commençaient un film en chantant dans une chapelle des chants religieux et en passant plusieurs jours dans un monastère. C'est tout à fait nouveau et ça crée forcément une ambiance.
Grand Angle, Christophe Héningue.
Alors Jean-François Petit, on vient de voir que le monde monastique et le monde du cinéma a cherché un peu à se rencontrer. Vous parliez du relais de la presse catholique, des bulletins paroissiaux. Oui. L'Église elle-même, comment a-t-elle, enfin l'Église institutionnelle peut-être davantage, a-t-elle reçu ce message et ce succès populaire venant d'un film grand public?
Je dirais d'abord que ça se joue à petites touches. Il y a un peu une période de latence, une période un peu intermédiaire entre Cannes et puis la sortie du film. Où il y a, par exemple, le Festival du film francophone à Angoulême. Et bien là, Mgr d'Agence est là et puis il accueille favorablement le film. Et on sent qu'il y a des petits signaux qui se mettent en place comme quoi ce film va être vraiment très intéressant. Et puis après, effectivement, il y a le travail, par exemple, des hebdos. Bon, alors on va citer Le Pèlerin, on peut citer aussi La Vie, on peut en citer d'autres. Et les gens se réapproprient une histoire qu'ils connaissaient par mon confrère Bruno Chenu. Il avait été aussi quelqu'un qui avait joué un rôle important
dès le début.
En 96 pour publier les écrits de Christian de Chergé. Il y avait eu Des Petites Vies, il y avait eu Prier 15 jours, il y avait eu... Bon, et ça fait sens tout de suite pour les gens. Et je pense qu'il y a une possibilité d'identification chrétienne qui est amplifiée. Bon, les médias sont aussi là pour donner du sens à ce que les gens voient. Et ça fonctionne très bien. Donc après, ça va devenir vraiment un phénomène total où beaucoup de gens vont intervenir.
Philippe Royer ?
Oui, le distributeur du film, Mars Film, a aussi beaucoup aidé puisqu'il a privilégié le réseau catholique, le réseau chrétien, pour faire connaître le film avec des avant-premières réservées à des rassemblements de jeunes, à un public chrétien. Il a fait un travail de terrain, ce distributeur, en diffusant des plaquettes sur le film. Donc il faut quand même lui rendre hommage aussi.
Mais comment on sait quand on est vraiment amoureux ?
Et il y a quelque chose en vous qui s'émeut à la présence d'un être qui est incontrôlable et qui fait que le cœur bat, généralement. Et c'est une attirance, c'est un désir, c'est très très beau. Donc ne faut pas trop se poser de questions, tu sais, c'est un état de fait. On est comme ça, puis tout d'un coup, c'est le bonheur, enfin l'espoir du bonheur, c'est un tas de choses. Mais enfin, c'est un trouble, un grand trouble, surtout quand c'est la première fois.
On l'a reconnu, Michael Lonsdale, César du meilleur second rôle, alors que c'est un grand rôle à lui tout seul. Philippe Royer, quand on entend Michael Lonsdale, c'est un message. Vous parliez effectivement des réseaux un peu catholiques qui avaient été sollicités par le distributeur, mais là, on est sur un message qui est bien plus large, un message universel.
Tout à fait, et je pense que les spectateurs y ont été sensibles, et c'est un message aussi qui est entendu, qui est reçu dans d'autres pays, dans d'autres cultures, hein, pas uniquement en terre chrétienne. Hein, je pense qu'il va être, enfin pour l'instant, l'Asie n'a pas encore distribué, mais en tout cas, il y a des pays qui...
On parle d'une cinquantaine de pays.
Oui. Il n'est pas sorti dans tous ces 50 pays, mais déjà dans une bonne vingtaine. Ça se diffuse mois après mois. Mais moi, je me souviens de la réaction d'un confrère irlandais à Cannes, qui était à côté de moi et qui m'a dit à la projection, et qui m'a dit l'histoire de l'Algérie et de la France est une histoire qui m'échappe, mais en tout cas, pour moi, c'est un film qui me parle, parce que je peux imaginer une ONG, une petite mission de médecins pris au milieu d'un conflit quelque part en Afrique ou quelque part dans le monde, et les interrogations seraient exactement les mêmes.
Henri Casson, vous rentrez tout juste du Québec où le film est arrivé sur les écrans. Quelle réception là-bas ?
Alors, excellente réception, oui. J'ai été très étonné parce que il faut dire que le Canada, le Québec en particulier, surtout le Québec d'ailleurs, sont très sécularisés. On parle d'une France sécularisée, mais c'est encore plus marqué là-bas. À l'inverse, donc le film sortait aux États-Unis et je donnais pas mal d'interviews, étant franco-américain, à la presse américaine. Et aussi très très bien reçu aux États-Unis, bien que le film n'ait pas été retenu donc pour les Oscars du film du meilleur film étranger. Et ça, c'est effectivement ce souci d'universalité. Ce que j'ai trouvé très beau, c'est que dans cette entreprise, je suis peut-être pas catho-catho, comme le dit Xavier Beauvois, enfin, je suis chrétien, je le revendique sans complexe, justement. Donc, c'était important d'avoir quelqu'un qui était conseiller monastique. Comme vous l'avez dit, c'est un peu une première dans l'histoire du cinéma. Donc, assumer ça, j'ai trouvé ça très courageux dans le contexte français. J'ai trouvé très intelligent la manière dont l'Église s'est positionnée, parce qu'il y a eu un vrai relais d'Église et qui a été, à mon avis, assez fécond. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en bout de course, ici en France, on a touché des gens qui se disent athées, malcroyants, incroyants, enfin tout ce qu'on veut, qui ont été touchés par le film pour les raisons que vous évoquiez, parce que c'est un cas de conscience, que c'est une question d'humanité, voilà, et qu'en fait, il n'y a pas de concurrence entre Dieu et les hommes, justement, dans une perspective chrétienne en tout cas. Et ce qui est intéressant, moi, le projet qui m'a intéressé au départ avec Xavier Beauvois, c'est vraiment d'arriver à l'étape dernière de Tibérine, c'est-à-dire l'étape de la Pentecôte. C'est-à-dire, Xavier me disait, moi, pour moi, les frères, c'est des lumières, et je veux qu'ils brillent comme les étoiles dans le ciel. Alors, c'est très ambitieux. Enfin, aujourd'hui, on y est. Donc là, je suis en discussion, par exemple, avec le Japon, où il va sortir. Donc, on commence à toucher l'Asie. Il y a 1% de chrétiens au Japon, même peut-être un peu moins. Donc, c'est très important aussi de rendre l'Évangile audible et de faire en sorte, à travers ces œuvres d'art que sont le cinéma, de faire en sorte que des personnes qui sont aux frontières de l'Église, dans d'autres pays, puissent être touchées. Et sur la question, justement, de l'Algérie et de la France en particulier, Étienne Comard, le scénariste, a veillé à ce que il y ait évidemment, ça c'était surtout l'obsession de Xavier Beauvois, un souci documentaire quant à la vie monastique. Et je pense qu'on a relativement bien réussi sur ce plan. Mais pour ce qui est du contexte, à aucun moment dans le film on ne mentionne l'Algérie. C'est intentionnel. À aucun moment on ne donne le nom du village. Ça n'est pas le nom Tibérine. C'est dans le Moyen Atlas, donc ça ressemble beaucoup au contexte à la fois physique et humain de Tibérine et aussi de Midelt, le prolongement de Tibérine aujourd'hui. Mais ce souci de ne pas ancrer l'histoire dans une réalité historique trop précise est volontaire. Et volontaire pour faire de cette histoire réelle une parabole qui puisse rejoindre aussi d'autres peuples, parce que le terrorisme, il peut toucher tout le monde. Il y a du terrorisme, pas d'ailleurs seulement musulman, mais en Irlande, on s'est entretué entre protestants et catholiques. En Inde, aujourd'hui, il y a des très grands problèmes avec le BJP, un hindouisme extrême. Donc c'est des questions qui touchent les gens aussi dans des cultures différentes, et cette histoire a valeur universelle. Et je crois que c'était important de limiter justement le contexte historique. Ça a été parfois critiqué par peu de gens, mais quelques personnes ici en France, mais c'est délibéré et c'est clairement assumé pour la diffusion justement du film.
Jean-François Petit, cette dimension universelle du film apparaît de façon très claire.
Oui, elle est très présente. Effectivement, ce que dit Henri Quinson me semble très juste, parce que à un moment donné, on a un peu hésité. On s'est dit, mais enfin, on voit pas assez l'Église d'Algérie derrière les moines. On a l'impression d'un huis clos où on les voit pas en discussion avec l'ordre des cisterciens. Mais en fait, c'était aussi une façon de dire cette histoire peut se passer bien dans bien d'autres endroits ailleurs aussi. Donc, le message qui est ici évoqué de Tibrine, en fait, c'est un message véritablement universel. Justement, une contextualisation trop forte n'aurait pas aidé ce film. Donc, je pense effectivement là qu'il y a quelque chose qui est dit de l'amitié, qui est dit de l'amour, qui est dit du dialogue, de la prise de décision, du risque assumé ensemble, d'un cheminement, d'une montée, d'une ascension, qui peut donner lieu à différents niveaux de lecture. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce qu'à partir d'une histoire réelle, le cinéma peut aussi donner sens à cette histoire-là, avec ces catégories, avec ce transfert un peu entre le réel et le virtuel, dans lequel aussi beaucoup de gens se reconnaissent aujourd'hui. Donc je pense que c'est un film aussi très contemporain.
C'est aussi ce qui explique la bonne réception. Vous aviez parlé de la presse catholique qui l'avait soutenu et encouragé et plébiscité, mais de la presse généraliste.
La presse généraliste a été un peu plus attentiste à certains moments. Bon, on ne va pas donner des noms, mais certains grands médias voulaient revenir d'abord sur l'enquête historique, proprement historique. La presse catholique ne s'est pas enfournée dans cette voie-là, et elle l'a jouée à sa façon. Et je pense que cette façon-là était aussi juste, parce qu'il y avait toujours de l'émotion, et l'émotion a été retenue, elle était aussi un peu objectivée. Donc on a repris des pièces du dossier, mais sans en faire un obstacle à la réception du film. Et c'est ça, à mon avis, qui constitue en partie son succès. Et les angles aussi qui ont été utilisés par les journalistes sont très différents. Il y a l'angle de l'enquête, il y a l'angle du récit, le témoignage des acteurs, les sorties de cinéma où on voit les gens, où justement les journalistes vont interroger des gens qui ne sont pas religieux pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ce film. Et tout ça se coagule aussi un peu avec des analyses de spécialistes. Je pense à Christian Salençon, qui est un bon connaisseur de cette question-là. Donc,
théologien à
Marseille, qui connaît beaucoup cette question de dialogue islamo-chrétien, d'autres aussi qui vont intervenir aussi au nom de leurs compétences et vont trouver là un point d'appui fort. Par exemple, qu'est-ce que signifie la vie religieuse aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire mener jusqu'au bout une vocation ? Bon voilà, ça c'est très très heureux.
La façon dont la presse généraliste s'est emparée du film avec quelques réserves, Philippe Royer, est-ce que c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec la profession cinématographique ? Parce que 11 nominations au César, et j'ai envie de dire, bon, 3 Césars, c'est déjà une belle récompense et une belle reconnaissance du travail de l'ensemble de l'équipe, mais en même temps, on s'attendait peut-être à un enthousiasme plus partagé.
En tout cas, peut-être entre... moi, j'aurais ajouté un quatrième, on aurait pu... imaginez que le César du son soit attribué au technicien de ce film. Je crois que là, vous savez, les Césars sont 3800 personnes qui votent à bulletin secret, des gens techniciens ou qui sont producteurs, des gens qui gravitent dans le monde du cinéma ou qui le font. Et je pense qu'ils ont été assez étonnés eux-mêmes d'avoir nominé 11 fois.
Expliquez-nous. Il y a un premier tour, ouais, c'est ça ?
Il y a un premier tour, effectivement. Il y a une liste de nominés. Hein,
ouais.
C'est la même chose.
Un vote pour un premier tour.
Voilà, pour un premier tour où on détermine 5 ou 6 noms hein, pour chaque catégorie. Il y en a une quinzaine à peu près. Et puis ensuite, il y a un second tour. Voilà. Donc, et il y a un second tour définitif où c'est celui qui a le plus de voix qui l'emporte. Alors, sans doute, j'imagine qu'après... vous savez, il y a eu des années... Je pense que c'est un peu ça, l'explication aussi. Il y a des années, certaines années, où des films ont massivement remporté... la quasi-totalité des Césars. Et je pense que ça a un petit peu, non pas traumatisé, mais est un peu fort. En tout cas, les votants cette année n'avaient pas très envie de revenir à ce cas de figure.
Cette unanimité.
Voilà, où il y a eu des films qui méritaient peut-être pas, des films très à ressais, on va dire, qui avaient eu une audience plus limitée, de quelques centaines de milliers. Voilà, L'Esquive ou La Graine et le Mulet, qui sont des bons films, mais qui ont été récompensés, couverts de César, bon, alors que d'autres films qui méritaient d'être plébiscités aussi, en tout cas couronnés, étaient mis de côté. Donc je pense que ça a un petit peu pesé sur le vote de cette année et que dans le second tour, hein, si on peut dire, il y a eu une ventilation des lauréats plus grande que les années précédentes.
Le lac des cygnes, qui la musique de cette scène émouvante de La Seine, à la fin du film Des hommes et des dieux. Les hommes et des dieux, les raisons du succès et le message de Tibirine, c'est le thème du jour de Grand Angle sur RCF. Nous en débattons avec Philippe Royer, Jean-François Petit et Henri Quinson. Jean-François Petit, on sent que effectivement, on vient de dire un message qui est universel, qui déborde des frontières de l'Église catholique et du monde monastique. Comment on peut le situer dans le temps aussi? Parce que vous avez parlé un peu tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'écrits autour des moines. Il y a cette page extraordinaire du Testament spirituel de Christian Schergé. Comment le film se situe par rapport à toute cette lignée, cet héritage?
Je pense que le film arrive peut-être à un bon moment. On n'était plus dans le temps un peu du deuil ou du doute ou un peu de la tristesse, mais avec peut-être un temps de désir de repartir, d'avancer sur des voies nouvelles. Bon, on sait bien que le dialogue, c'est pas facile, que les liens euro-méditerranéens doivent être encore beaucoup cherchés. On le voit ces jours-ci. et que ben, le dialogue théologique islamo-chrétien se heurte aussi à des difficultés. Henri Quinson l'a dit tout à l'heure, ben, il y avait quand même aussi l'affaire de la burqa, hein, il y a quelques mois. C'est-à-dire, bon, quelle attitude raisonnable avoir les uns vis-à-vis des autres, dans le respect des convictions de chacun, mais aussi comment avancer dans un message de paix, de fraternité, de justice. Moi, je pense que le premier mérite de ce film, pour la petite sphère aussi qui est un peu la nôtre, ça a obligé les chrétiens à sortir un peu des sacristies.
Hein, je veux dire, bon, et voilà, aller au cinéma.
Et aller au cinéma. Donc voilà, on a un moyen formidable, utilisons-le. Enfin, soyons aussi des gens qui accueillent les formes modernes de la culture. Il y a tout à gagner, enfin, il y a tout à découvrir aussi et à apprendre de ce lien. L'Église peut apprendre des choses à partir de là. Elle n'a pas simplement un message à faire passer, elle a aussi à apprendre de la vie tout autour. Donc je pense effectivement qu'on est loin de la fin de ce film. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se jouer. Par exemple, ces jours-ci, ben, la sortie du DVD va effectivement donner
un
nouveau cycle de réception, c'est évident. Parce qu'on sait bien qu'un certain nombre de personnes ne vont pas au cinéma. Un certain nombre de jeunes, même des jeunes, ne vont pas forcément au cinéma. C'est par le DVD. Et moi, je suis très curieux de savoir comment dans des familles, au coin du feu, enfin maintenant, ce n'est plus tellement le coin du feu. Mais enfin,
au coin de la télé, en tout cas.
Au coin de la télé, on va pouvoir parler de ce film. Donc, on sera là dans l'ordre aussi de l'intime, de la réception privée du film, avec des discussions qui seront sans doute assez profondes. Et ça m'intéresse autant que les discussions de sortie de cinéma. Je fais la comparaison avec un autre film qui a beaucoup marqué, un film passé de Mel Gibson. Bon, quand on écoutait les gens à la sortie du cinéma, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment un film terrible, c'est terrifiant. Enfin, alors là, bon, la sortie du film, tout le monde l'a constaté. Les gens étaient apaisés, ils avaient envie les uns d'aller vers les autres, etc. Enfin, il y a un silence quasi religieux à la fin des séances. Enfin, c'était assez phénoménal. Et bien, je pense que pour la conception même de notre vie ensemble. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre à partir de ce film.
Vous avez parlé du dialogue interreligieux, enfin oui. Islamo-chrétien. En même temps, il n'est pas véritablement mis en scène dans le film. Mais c'est une bonne base de départ ?
Si, c'est une bonne base de départ, parce que, vous savez, bon, quand on essaie de réfléchir aussi à partir des grandes orientations du Concile, bon, le Concile a réaffirmé fortement, le Concile Vatican II, l'importance du dialogue interreligieux. Bon, il distingue deux ou trois, quatre formes. Hein. Il y a le dialogue de la vie, on le voit excellemment illustré dans ce film. Bon, on soigne des gens, on ne va pas demander le certificat de baptême, le frère Luc n'a jamais fait ça. Il y a le dialogue un peu plus spirituel. Bon, bah, il le pratique, même en termes un peu d'accompagnement. Il y a le dialogue, effectivement, d'ordre théologique. Et là, on sait que Christian de Chergé était quand même très, très avancé, avec même des problèmes de réception dans sa propre famille, hein, sur sa conception du dialogue théologique. Bon, voilà, donc il y a une forme d'illustration de ce que souhaite aussi, peut-être un peu fortement aujourd'hui, le cardinal Torrent ou d'autres, hein, ou Dicaster pour le dialogue interreligieux, qui me semble là être aussi bien illustré.
Non. Henri Quinson, dans les quartiers nord de Marseille, où je vous avais rencontré d'ailleurs, c'était un peu l'esprit de Tibérine qui soufflait, c'est-à-dire que l'esprit de Tibérine peut être transposé.
Bien sûr, alors c'est ce qui intéressait d'ailleurs Étienne Comard et Xavier Beauvois quand ils m'ont contacté, c'est que bon, pour moi Tibérine n'est pas simplement voilà, un devoir de mémoire par rapport à des martyrs qui ont été assassinés, qui se sont transformés en statues de plâtre. Ce qui est intéressant, c'est que à travers l'éducation, et nous on a fait beaucoup de travail d'éducation à Marseille, tout simplement bah, apprendre l'histoire et la géographie, c'est s'ouvrir aussi à autre chose, c'est déjà se déconstruire peut-être des représentations de l'autre, et à travers les œuvres d'art, et en particulier ce film, c'est aussi justement entrer dans peut-être la complexité du monde et donc une forme d'ouverture, c'est-à-dire que même un terroriste qui veut trancher la gorge de ces braves moines est capable, si on lui parle sa langue, si on fait référence au Coran, bah, de revoir peut-être sa position.
C'est la scène de Noël 93, voilà, qui est dans le film et qui est tout à fait véridique.
Exactement. Donc ça, c'est important de le dire aux gens, voilà. C'est important de dire que voilà, le choc des civilisations annoncé, malheureusement, souvent en cours, il n'est pas inéluctable. Et c'est à nous de faire ce travail. Alors aujourd'hui en France, il y a, paraît-il, à peu près 8% de musulmans. Dans une ville comme Marseille, il y a 300 000 musulmans, paraît-il. Enfin, il y a des querelles sur les chiffres. Enfin, une forte présence. Que faisons-nous aujourd'hui dans nos villes pour justement oser cette rencontre? Je crois que ce film, c'est beaucoup la rencontre, justement, entre personnes différentes. Nous, notre évangile, c'est que nous sommes frères de tout homme, c'est dit explicitement dans le film. Donc il s'agit de le vivre. Alors ça continue de se vivre à Tibérine, grâce grâce à Jean-Marie Lassauce, dont d'excellents journalistes ont su transcrire l'expérience. Voilà, Christophe Hénin, le jardinier Tibirine. Merci. Et il y a aussi Midelt. Hein, donc moi, j'avais très peur quand je me suis lancé dans cette aventure qu'il y ait des soucis pour ces deux lieux qui continuent de vivre aujourd'hui, notamment avec frère Jean-Pierre, donc le survivant de Tibirine, qui est toujours vivant là-bas à Midelt, à 100 km de notre lieu de tournage,
mais
au Maroc.
Là, voilà. Il y a une communauté monastique, voilà. Alors qu'il n'y a plus de moines à Tibirine.
Exactement. Alors ça, c'est important qu'il y ait toujours ce prolongement monastique, mais je pense que Tibirine, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, j'ai mis en exergue de mon livre une phrase de frère Christophe qui dit « Une communauté ne doit pas chercher sa survie, mais à donner vie, donner naissance par l'Esprit Saint. » Voilà. Donc pour moi, ça, c'est, on est maintenant dans une histoire, dans une étape de Tibirine qui est l'effusion de l'Esprit, c'est-à-dire que cette réalité de la fraternité possible, voilà, puisque on le voit dans le film, les voisins demandent à ces moines de rester. Moi, quand je suis retourné à Tibirine, j'ai rencontré les voisins, ils me disaient « Henri, quand est-ce qu'on va à nouveau avoir nos moines ?» Voilà, donc il y a aussi des musulmans qui demandent leurs moines chrétiens. Il faut le dire aujourd'hui. Ce sont ce qu'appelait Christian de Chergé les exceptions prometteuses. Et dans nos vies ici en France, il y a 1000 manières de continuer à vivre de cet esprit. Ça n'est pas réservé aux moines.
Quelles sont les réactions qui vous ont le plus marqué? Parce que vous avez présenté le film de nombreuses fois, dans de nombreuses salles et donc dans plusieurs pays. Alors, il y a énormément de réactions, j'imagine, mais on n'a pas le temps maintenant de faire le tour de tout ce qui peut surgir après la projection. Mais qu'est-ce qui vous a frappé le plus?
En réalité, pour ce qui me concerne, j'ai accepté aucune conférence parce que je n'arrive pas à parler après ce film, je vous l'avoue. Par contre, j'ai accepté des rencontres, etc. Et maintenant, avec le livre qui explique un petit peu l'histoire de ce film, j'ai accepté de reprendre la parole et je le fais très volontiers. Pour moi, c'est important maintenant. C'est vrai, il y a des étapes. Et c'est important maintenant aussi de dire, voilà, certes, ce film, d'une certaine manière, est au-delà des religions. Mais il faut bien dire que ce film, c'est ce que j'ai expliqué une fois au général de Chergé, le frère aîné de Christian de Chergé, qui me disait, bon, c'est bien de dire que mon frère était très ouvert, mais il était aussi très chrétien. Et je disais, mais c'est précisément parce qu'il était très chrétien qu'il était très ouvert. Donc il est venu le temps de réexpliquer l'évangile pour l'homme moderne, et en particulier les Français, très marqués par une certaine forme de laïcité, de sécularisation. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, et je pense que c'est une voie pour justement prendre la parole et discuter, c'est que les réactions des gens, que vous me posez la question, c'est que beaucoup de gens qui ne se situent pas dans des catégories confessionnelles ont été touchés par ce film. Pour moi, c'est ma plus grande réussite parce que c'était clairement ce pourquoi j'ai travaillé. Je considère qu'on doit arriver aujourd'hui. J'aime bien le titre, justement, « Des hommes et des dieux ». Je sais que ça a beaucoup froissé dans certains milieux. Mais il y a des représentations de Dieu. Donc, il s'agit de dire de quel Dieu parlons-nous. Ce mot est extrêmement piégé, Dieu, de Zeus, un vieux barbu infidèle, n'a rien à voir avec le Dieu dont je vis personnellement. Donc, ça permet peut-être d'ouvrir en France, de reprendre la parole sur cette question importante, faire de la théologie. Voilà. Et moi, je crois que les réactions des gens, c'est finalement ça. Devant ces hommes, leur belle humanité, eh bien, pouvoir reprendre ce chantier de la divinité et montrer en quoi théologie et